4.
Gardez les yeux ouverts. Une émission socioculturelle proposée et réalisée par Stéphanie Andrès. Tous les mercredis et samedis, entre 17 et 18 heures, et en rediffusion pendant un mois. À réécouter en podcast sur le site de radioquipique.org. K-I-P-I-K. Aujourd'hui, je vous emmène voir et goûter les vendanges dans les Corbières. Ça se passe dans le village de Treille, à la cave de la Couillade. Mais il n'y a pas que des mecs. Avec le collectif 100%, écrivez-le comme vous voulez. Et comme on est un peu quand même au pays du vent et du vin, le son sera parsemé de tramontane et parfois d'ivresse.
Alors ?
Tu veux goûter ? Je fais une encore un peu.
Vas-y, fais voir.
La petite Syrah du jardin botanique.
Alors, oh là là ! Ça, c'est ce qu'on a ramassé ce matin ?
C'est ce qu'on a ramassé avant-hier.
Avant-hier, ouais.
Donc c'était, ouais, on a ramassé ça quand samedi, je crois. Hein. Une tonne 100 sur ma Syrah du jardin botanique à Feuillard. Une jolie petite Syrah cachée dans un endroit magique. C'est mon lieu de ressourcement.
Donc le Syrah, pour ceux qui connaissent pas, c'est du raisin rouge.
Ouais, c'est du rouge. C'est du rouge qui tache. C'est celui le plus rouge qui teinte le plus en fait. Mais du coup, c'est une Syrah, donc c'est le seul cépage féminin. S'appelle la Syrah. Et donc sensuel, sexy, plaisant.
Comme toi, quoi.
Pas tout à fait. Et ouais, donc il est à combien ?
1095.
Ah, il n'a pas encore démarré. Ok. Donc c'est... il est encore en stagnation, il macère gentiment.
C'est quoi ce chiffre-là ?
C'est la densité de sucre. Donc si on l'a vendangé il y a 3 jours, du coup. Donc on était à 1095-1097.
Donc là il n'a pas d'alcool. Pour avoir de l'alcool, ce sera quoi comme chiffre?
Pour arriver à la fin, on sera autour de 999-97 par là. Et là les levures, elles ont fait leur boulot correctement. Les levures qui sont indigènes sur le raisin travaillent par elles-mêmes. Elles mangent le sucre et elles chient de l'alcool. C'est leur boulot.
Elles mangent le sucre et elles chient de l'alcool.
Ouais. C'est pas mal ça. Hein.
Justement, en parlant de caca, tu disais que c'était ton petit coin de paradis là, ce terrain. Bon. C'est vrai que quand on est arrivé, on m'a parlé d'une source magnifique qu'il y avait, je sais pas, l'année dernière encore. Il s'est passé quoi avec cette source sur ton terrain ?
Et ouais, donc c'est un lieu où, qui s'appelle Foncaude, la source chaude. Et donc c'est un lieu qui, d'habitude, coule une source qui sort des montagnes, des Corbières, qui alimente un petit ruisseau et au bout de ce ruisseau, il y a un bassin sous un figuier caché avec une roche où il y a une petite grotte et dedans se nichent des barbets, des poissons. Et normalement, on s'y baigne après les vendanges. Donc ça, c'était en 2021, mon premier millésime, on s'y baignait. Et puis depuis 2023-2024, cette année, on s'y baigne plus parce que c'est la sécheresse, il n'y a plus d'eau. Voilà, donc là, on est en période de sécheresse, il n'y a plus d'eau.
Enfin, moi, j'ai ressenti un deuil, tu vois. Quand je suis allée dans ce trou et que j'ai vu l'eau croupie, là, je me suis dit, bon...
Les poissons, ouais, on a dû les...
Je ne verrai pas Arnaud se baigner.
Bah voilà. Peut-être l'année prochaine, il y a toujours de l'espoir.
Gardons l'espoir.
Ah, c'est ça, hein.
Ça y est, c'est l'heure des vendanges. Le raisin, il est super mûr. Un peu atrophié par rapport aux autres années, à cause de la sécheresse. Donc là, on a fait quelques vendanges et il y a plus ou moins de satisfaction selon les parcelles, selon où elles sont exposées, avec le vent, pas de vent. On est dans l'Aude, à la cave de la Couillade. Et il y a une trentaine de personnes qui sont sur place, à filer des coups de main... Voilà, généreusement et juste pour vivre une expérience inoubliable. Il y a plusieurs endroits. Il y a la station de lavage des comportes. Avant ça, il y a la station de pressage du raisin. Et je crois qu'il y a un égrappoir. Et il y a la station aussi cuisine, puisque là, il est midi et demi et le repas est prévu à 1h30. Il y a une ambiance de malade, c'est chacun à sa tâche, tout est orchestré.
wife and auntie's at the zoo says, are you fine? If I stick it, I join the US Army.
T'étais en train de fouler le raisin avec tes pieds,
ouais.
Directement dans la cuve.
Ouais.
Je voulais savoir, c'était quoi les sensations que tu avais ressenties?
Ben, j'aime bien marcher pieds nus. Du coup, c'est toujours sympa de sentir différentes textures sous les pieds. Voilà, du coup. Bah, c'est juteux. C'est juteux. Après, c'était sympa parce qu'on avait de la musique en même temps. Du coup, voilà, ça donnait un rythme pour fouler, quoi.
C'est un peu la même sensation que quand tu marches pieds nus dans l'herbe, ou pas?
Et non, bah non. Du coup, ça se rapprocherait plus de marcher dans l'eau, dans le sable, peut-être. Mais sauf que c'est plus doux. C'est plus doux que le sable.
Ça te fait un massage?
Ouais, carrément. Okay. Carrément. C'était plutôt agréable, ouais.
Et toi, Lily?
Bah, moi, c'est ce que j'allais dire. Voilà, il y a un côté très réflexologie plantaire qui est très plaisant et à la fois t'apporte un message au vin aussi. Le fait de ressentir, tu ressens déjà une espèce d'ivresse que tu pourras avoir quand tu auras bu le vin une fois qu'il sera prêt. Mais ouais, il y a ce côté très sensation. Alors, faut faire attention parce que c'est très glissant. Donc on s'accroche et puis c'est vrai que c'est un beau partage. En tout cas, c'était très agréable de partager ça avec toi. Et ceci dit, dans la comporte, c'était pas forcément le plus agréable. Moi, j'ai eu l'occasion l'année dernière de faire ça dans le pressoir direct. Alors c'est une autre énergie, c'est une autre posture parce qu'il y a le vis qui fait que le raisin tourne dedans. Un peu plus dangereux, mais à la fois dans la recherche d'aller chercher le grain au fond du fouloir, ça c'est c'était très plaisant pour moi d'aller.
En tout cas, je retiens que c'est thérapeutique, ça fait une sorte de massage.
Ah ouais. Ouais.
Voilà, il y a ce rythme avec la musique.
Et...
ouais, il n'y a pas un petit côté trans aussi avec l'odeur, parce qu'il y a les effluves, il y a l'alcool qui monte quand même, non?
C'est... Alors,
je
ne
sais pas si c'est au niveau d'alcool.
Pas encore, parce que il faut une macération pour qu'il y ait le taux d'alcool, mais l'odeur du jus, oui, est très, très, très agréable. D'ailleurs, ça m'est arrivé plusieurs fois de lécher ma cuisse parce que le jus monte jusqu'au...
Donc, on peut rajouter sensuel à cette expérience.
Il y avait un petit côté spectacle, ça a mis une petite euphorie là quand on a commencé à découvrir nos jambes pour danser dans le raisin. Là, senti que c'était ouh.
C'est un peu le but des vendanges, hein.
C'est la fête.
C'est la fête.
Et du coup, ce matin, on a fait le ramassage, là, on a fait les vendanges.
Ouais.
Et toi, c'était la première fois, Flo, ou...
Non, moi j'ai déjà fait les vendanges à plusieurs endroits, en Alsace, en Gironde, en Beaujolais, et dans l'Aude aussi. Et dans la Drôme. Mes grands-parents étaient tous les deux viticulteurs, enfin mes deux familles de grands-parents étaient viticulteurs, mon oncle est viticulteur, donc je connais un petit peu, je suis un peu dedans.
Et toi-même, tu vas te lancer ou tu viens faire les vendanges et...
Non, moi je viens faire les vendanges, voilà, okay. Parce que là c'est des amis, on est au bord de la mer et du coup voilà, c'est ce qui m'a convaincu de venir.
Il y a une histoire de partage avec les gens aussi, ce petit moment de
vie. Oui, c'est ça, de partage, de rencontrer plein de gens d'un petit peu partout. Et quelque part, quand on fait les vendanges, c'est aussi un peu que des fois on est un peu en stand-by ou en pause dans sa vie parce que ça demande quand même un petit peu de temps. Donc ça suppose qu'on est soit en vacances, soit en transition sur autre chose. Et du coup, c'est intéressant d'avoir des échanges avec des gens qui sont dans des moments comme ça, un petit peu de réouverture à tiens, j'ai rien de spécial à faire, je m'ennuie un peu chez moi ou je vais aller là-bas, je vais rencontrer des gens et ça va peut-être me donner des idées pour la suite. Et, en tout cas, c'est un peu ce que j'ai senti dans certaines discussions que j'ai eues avec des gens qui étaient dans des phases un peu particulières dans leur vie. C'est mon cas aussi. Et du coup, ouais, moi, l'échange m'intéresse beaucoup.
Il y a un peu cette idée de donner de soi, même si on ne sait pas trop où on habite à ce moment-là, on va dire, dans ses projets, de donner quand même de soi dans n'importe quelle activité, parce qu'il y a des groupes cuisine, des groupes nettoyage, des groupes... je vais à la mer aussi.
quand on a du mal peut-être ou quand on n'arrive pas à avancer pour soi, ça peut être intéressant de mettre son énergie au service de quelque chose de collectif. Et ça nous nourrit et ça nous permet après de revenir à soi avec un enrichissement ou voilà, des rencontres, des idées, des lieux où aller pour avancer.
Pour se remplir.
Pour se remplir, oui. Voilà.
Lily, je voulais te poser une question parce qu'hier, tu es arrivée avec trois pots de moutarde différentes, des idées plein de vinaigre dans la tête. Et du coup, toi, tu as un petit peu autour des aliments, de leur transformation.
Tu sais quelle question tu vas me poser?
Question, c'est qu'est-ce que tu aimes dans les vendanges? Parce que je pense que c'est un lien direct avec ton activité, quoi.
Et ben moi, il y a ce côté, moi j'ai une curiosité qui est débordante. Il y a plein de questions sur les différentes macérations, les différents procédés, et pourquoi toi tu mets ton vin comme ci, et dans quelle cuve. Enfin, il y a tellement de choses, moi j'adore ça, et j'aime m'enrichir de la nouveauté. Et justement, comme tu disais, voilà, des fois quand on peut être un peu perdu sur des moments de nos vies, ces moments de vendange avec des personnes différentes, ça laisse vraiment une ouverture, ça ouvre tellement de portes et ça te fait questionner. En tout cas, moi, je me questionne et je fais la réflexion à Jay, mon chéri, qui est vigneron. Et je lui ai encore dit tout à l'heure, je lui dis, c'est tellement plaisant que ça me donnerait presque envie de devenir vigneronne, tu vois, à des moments.
T'es pas très loin maintenant, non, t'es à côté d'un vigneron quand même.
Mais voilà, faut pas s'éparpiller, mais ceci dit, c'est un plaisir voilà, de découvrir à chaque instant, chaque moment de la vinification, voilà, de zéro, du point zéro à la finalité, à la dégustation du vin.
Tu me parlais aussi je reviens sur ta moutarde alors qu'on est sur le vin, mais c'est pas très loin. C'est juste que là, on fait du vin nature et toi, tu me parlais que tu voulais faire pousser de la moutarde pour redonner de la vitalité au sol.
Ouais, la moutarde, d'une part, est très mellifère et elle dynamise les sols. Donc, il y a un côté très intéressant. Et puis, elle apporte tellement de choses aussi pour le corps. On est peut-être pas des consommateurs. Alors, il n'y a pas que cette plante-là, il n'y a pas que cette graine. C'est assez intéressant de s'ouvrir à plein de choses et puis de consommer du vivant, ouais, et de côtoyer le vivant. Et de le pratiquer aussi, hein, en tant qu'être vivant. Moi, c'est une logique, en tout cas, qui me parle énormément et qui me correspond.
Merci, les filles vivantes. Alors Seb, pourquoi t'es tombé dans le vin ?
Alors moi, ça a commencé lorsque j'étais étudiant à 23, 24 ans. Je voulais acheter une vigne et accompagner un vigneron. Je me disais que si j'étais un jour clochard, au moins j'aurais du bon vin, quoi. Ça a commencé comme ça.
D'accord.
Voilà. Donc je me disais, je boirais le fermage. Au moins, je picolerais pas de la merde.
Peut-être je mourrais pauvre, mais avec du bon vin.
C'est ça. C'est un peu ça l'idée. Non, ça a commencé comme ça. C'est un peu la blague, mais j'ai toujours eu envie de... J'aime ce produit-là. Le goût de cette fermentation magnifique du raisin. Ma famille est dans l'agriculture, mais pas dans la vigne. Donc j'avais cette fascination pour le vin. Donc j'avais envie d'accompagner des paysans, des vignerons et partager cette passion-là, quoi.
Qu'est-ce que tu penses de la culture d'avant et la culture d'aujourd'hui par rapport au vin ?
Je ne sais pas à partir de quand on peut dire c'est la culture d'avant. Si c'est la culture d'avant le phylloxéra, d'avant l'arrivée des maladies de l'odium et du mildiou, la vie était plus paisible pour les agriculteurs, les viticulteurs, parce qu'il n'y avait pas ces maladies qui sont une plaie pour la viticulture, un peu moins dans l'autre parce qu'on a du vent et du soleil, donc on n'a pas besoin de traiter tellement nos vignes. Voilà, c'est un métier qui est physique, qui est pas facile. La mécanisation a tout changé. La viticulture a complètement été bouleversée, quoi, en 100 ans. Alors il y a eu la mécanisation, il y a eu les clones, c'est-à-dire qu'on reproduit des pieds de vigne. Avant, on faisait des sélections dites massales où on prenait les plus beaux pieds qu'on greffait. Donc il y avait plus de variétés dans les parcelles. Donc des résiliences, des résistances plus fortes des vignes aux maladies. Donc la modernité, ça a apporté de la mécanisation, du pesticide, de l'herbicide. Ça a doublé les rendements. Je pense que les rendements après-guerre ou avant Seconde Guerre mondiale étaient de l'ordre de 25 hecto-hectares. En moyenne en France, on est passé à 50 hecto-hectares. Donc on a doublé la production française à l'hectare grâce à la chimie. Ceci étant, les sols dans les zones viticoles sont abîmés, massacrés, c'est vraiment terrible. La vigne, c'est je crois 5% des surfaces agricoles et ça va être 40% des produits phyto ou un peu plus.
Donc est-ce que vous utilisez des machines ici dans vos vignes?
Alors nous, on utilise déjà, là on vient après 9 ans de viti, enfin de production de vin, on vient d'acheter un petit tracteur. Sinon, on a des voisins qui passent un peu dans les parcelles avec leur tracteur, donc on utilise un peu la machine. Je dirais qu'en moyenne, il y a un grattage ou deux grattages par parcelle. Ici, on a donc c'est pas des labours, c'est des grattages. Ici, on a des difficultés avec l'eau. Donc il y a une pluviométrie qui est très faible l'été, là ça fait 3 ans qu'on est en sécheresse. Et donc malheureusement l'agriculture sur sol vivant, c'est-à-dire pas travailler les sols, couper l'herbe, comme on pourrait faire un petit peu dans le nord de la France, parce qu'il n'y a pas de stress hydrique, de compétition pour obtenir l'eau par la vigne, compétition à l'herbe, etc. Donc nous, on est obligé de travailler un petit peu les sols si on ne veut pas que la vitalité de la plante diminue fortement. Moi, j'ai essayé, j'ai vu des amis qui ont essayé cette viticulture sur sol vivant, c'est-à-dire pas de travail du sol. Les pieds ont vraiment fondu, diminué, c'est très compliqué. Donc on est très sensible à la microbiologie des sols, on essaie de faire attention au tassement, on essaie de faire attention au labour. Mais alors soit on privilégie les micro-organismes, les bactéries, les vers de terre, et puis on ne fait plus de raisins. Donc autant laisser la garrigue venir. Soit on veut un peu de raisin pour en vivre, et il faut qu'on travaille quand même un peu les choses. On traite, pas avec le tracteur jusqu'à présent, on traite à dos d'homme. Enfin avec des bouillas d'eau, avec des atomiseurs.
J'ai entendu parler du rouleau FACA. Tu peux nous expliquer
Alors le rouleau FACA, c'est un système, alors j'ai pas expérimenté, mais donc l'idée c'est de faire des semis directs, des semis. Pour en général, on peut le faire sur la végétation spontanée, mais l'idée du rouleau FACA, c'est surtout sur du semis de légumineuses, voire de céréales, pour apporter de la matière organique et de l'azote dans le sol. Donc l'idée, c'est de faire un semis. Mais pareil, on met un semis, de toute façon, il faut un semoir, hein, sinon c'est con. Enfin, semer à la main, voilà, faut travailler les sols avec un tracteur ou un cheval, donc faut travailler les sols pour semer. Donc le rouleau FACA, l'idée c'est de, une fois que les plantes sont levées, des vesses, du seigle, pour, si on veut du carbone, du sainfoin si on veut de l'azote, une fois que tout est levé, avant que la vigne ait besoin de beaucoup d'eau et d'énergie pour commencer à... Donc ça veut dire qu'on faut coucher assez tôt dans la saison d'avril-mai ici, on couche l'herbe, on la casse.
Tu passes le rouleau et ça casse l'herbe.
Ça casse l'herbe, voilà. Donc a priori, ça fait un couvert végétal, ça protège les sols. Les plantes se décomposent, donc libèrent du carbone, de l'azote, donc ça apporte, c'est un fertilisant. Sauf que ici, avec nos stress hydriques, quand on sème, aujourd'hui, ça lève plus, quoi, au printemps. Et les légumineuses, elles lèvent pas. Donc on a ces problématiques de levée, parce qu'il n'y a pas eu assez d'eau au bon moment. Peut-être que cette année, ça aurait levé, mais ça aurait... Bon, voilà, donc il y a des gens qui l'ont expérimenté. L'Agence Bio de l'eau, des DPO, qui expérimente ça. C'est une très bonne technique. Il faut être un peu équipé, il faut que ça lève. Moi, c'est de la mécanisation, hein, quand même. Hein. Donc, okay. C'est semoir, pour travail du sol, FACA, c'est du tracteur, quoi. Donc, nous, on fait quand même beaucoup à la main. Pour l'instant, voilà, donc on n'est pas encore équipé.
Ok. Et quelle place ça prend dans ta vie, cette vigne et le vin?
Alors moi, j'ai plusieurs métiers. Donc c'est un de mes métiers. Donc j'ai 1,5 hectare de vigne. Donc ça prend pas mal de temps. Mes vignes sont dans les corbières maritimes, à Treilles, Fitou et Feuillat. Mais j'habite majoritairement en Bourgogne, à Dijon, où j'ai des activités dans le secteur culturel comme commissaire d'exposition. Donc je viens par session d'une semaine, 8 jours, pour les vendanges plus. Et donc si on a la chance de pas avoir besoin de trop traiter, donc ça veut dire traitement, c'est ici 3-4 fois par an. Ce sont des traitements avec de la consoude, de l'ortie, de la prêle et puis un peu de soufre, parce qu'on craint l'odium, pas tellement de mildiou. Donc ça permet de ne pas venir trop souvent. Là, je discutais avec des gens à Gaillac, là, ils ont fait 17 traitements cette année. D'autres dans les Charentes-Maritimes, ils en ont fait 27 en bio.
Ah ouais,
voilà, nous, on est moi je suis entre 3 et 4. Donc voilà, ça me prend peut-être 2-3 mois par an, j'en sais rien. Après, je mélange tout en permanence, donc c'est difficile à moi de...
3-4 mois par an et du vin toute l'année à boire.
Ah, du vin toute l'année à boire, bah, évidemment. On fait ici des vins sans intrants avec des jus bio. Donc on a le collectif plus de 20 hectares. On est un collectif et donc personne n'utilise d'intrants. Un lieu qui produit du vin sans intrants avec plus de 20 hectares de vignes, 23 hectares de vignes, il n'y en a pas beaucoup en France.
Merci Seb.
Merci beaucoup.
Assemblage, barrique, macération, débombage. Ah merde, c'était débourrage. Débourbage. Oh, je me suis embourbée. Soutirage, délestage, décuvage, pressage, température, densité, fermentation, malolactique, acidité, maturité, ahoutement, la fleur, la véraison, la novaison, mustimètre, cépage, pressage, pigeage, courson.
Alors on a préparé un yassa, mais pas avec du zébu, hein, avec de la biche. Et ensuite, on a fait de la semoule, petite salade aussi de melon avec figues et ananas. Et un pesto champignons farcis qui vont aller avec le plat sur le dessus. Donc, c'est un plat qui sera servi en trois grands plats avec les légumes dessus, manioc, tiarato. Et voilà, le pesto pour amener justement cette touche un peu des vignerons de la Couillade. Parce okay. Qu'ils sont, ils adorent ça, donc voilà, on a fait ça.
La semoule, rouler sous les
Et là, on fait la semoule avec ouais. Seb.
Et du coup, hier, j'ai vu que tu as fait macérer un grand plat, c'était
Et on va faire, alors on va faire, on a fait du bissap.
Ouais. C'est quoi?
De l'hibiscus.
D'accord, en tisane du coup. Voilà.
C'est une décoction avec vanille, citron, orange, menthe, piment, légèrement. Hein, voilà, c'est okay. Juste pour faire sortir les goûts. Qu'est-ce que j'ai mis dedans? De l'ananas également, de l'orange. Oui, ça je l'ai dit.
Et ça va avoir quel effet le bissap sur les vignerons?
Eh ben, c'est du rouge.
Encore du rouge.
C'est du rouge, mais du rouge sans alcool. Voilà. C'est la dernière fois, je leur ai fait la farce. Donc, je vais mettre des bouteilles de rouge sur la table et ça sera la surprise. Voilà.
Bon appétit.
Rouge, blanc, rouge. Rouge, blanc, rouge, blanc, rouge, blanc, rouge, blanc, rouge, blanc. J'aime le rouge. Il est tranquille, bienveillant, peu cordial, et même bon pour les enfants. Quand je le bois, je suis ici et maintenant, si tu la bois, je te resserre en souriant. J'aime le blanc, du bon terroir dans la bouteille rafraîchissant. Une belle table et au soleil, comme tu l'es beau. Il nous fait chanter tout le temps, il est charmant, et ne me cache jamais les dents. On est dedans, l'antioxyde et l'italien, c'est trop kiffant. La couleur rouge, c'est le vin. Le couleur rouge, il est juste bon pour la soupe, ton vin foncé. N'a pas vraiment le vin en poupe. C'est du blanc, mais ton breuvage ne sert à rien, c'est transparent. L'attrape ni gros pour parisien. C'est pétillant, hein, ouais, c'est la fraîcheur dans le vivant. Prends ta briquette et va faire chambre chez maman. On se met dans le rouge, mais on fait pas semblant. On se met dans le rouge. Si tu savais, ma belle au bois du plus charmant avec de l'ail.
Mais dis juste le crop de blanc, ton vin que sache. C'est de la peine, tu vois rouge ça.
Le blanc, c'est la couleur de rien du tout. Je fais semblant, ça m'évite d'être trop sous.
T'es déjà sous, tu te mets souvent dans le rouge, la redescend. Et prends un verre de petit vin blanc.
Non, pas question, à la rigueur, un petit rouge, mais attention. Les blancs ont tué des pas rouges.
À quoi tu parles? Il y a du poney qui est rouge, mais pourquoi pas? On peut se faire un petit blues.
On se met dans l'eau. Et on fait pas semblant. Le blanc sur rouge. On dit ça fait pas mon ménage, mais rien ne bouge. Je veux bien goûter ton breuvage.
C'est du plaisir, mais là je ne veux pas en boire. Fais-moi plutôt goûter un bon rouge terroir.
Non mais le blanc, à l'apéro c'est bien présent. Par tous les temps, je veux bien goûter, vas-y serment.
Non, pas de beurre, hein. Celui-ci sent bon la marie. Je veux du bon rouge, avec lequel on peut te vaincre.
Mais le blanc, de sa couleur immaculée, me rafraîchit comme une pigna dans l'été.
On dit le rouge, c'est un maçon dilatateur. Et comme le disait ma maman, il est excellent pour le cœur. J'aime le rouge,
j'aime le rouge.
Il est temps qu'il est goulé, y'a plutôt cordial.
Plutôt cordial et même bon pour les enfants.
Quand je le bois,
quand je le bois,
je suis ici et maintenant si tu as
bois, si tu as bois,
je ressors un sourire.
J'aime le blanc,
j'aime le blanc.
Il faut dans la bouteille,
herbissant, enrichissant.
Une belle table au soleil, quand il est bon,
quand il est bon,
il nous fait chanter tout le temps.
Il est charmant,
et ne me tâche jamais les dents.
Oui.
Si on mélange du bon rouge rose blanc, ça nous arrange. On boit un coup, on se détend. Si on mélange du bon rouge rose blanc à la Guyane, on peut continuer à
le café le matin.
Et 8h30 le départ.
Voilà, quand on peut. Quoi. Quand tout le monde est là.
7h30 le café, 8h30 le départ.
Ouais.
Ça fait un long café,
quoi.
Mais
un café les
plus parfaits. Ça fait
au moins.
Ouais, 8h.
Oh là là. Et le matin surtout. Le matin, c'est un moment très propice pour toutes sortes de vagabondages.
Ta zone ici, ta zone peur.
Ah, c'est un mélange de vaudeville et d'acteurs étranges ici.
Ah, c'est ça, ouais. Après des fois, ouais. C'est la boule de Bifort.
Ah, Bifort, allez.
Carignan, Grenache, Mourvèdre, Syrah, Muscat Petit Grain, Muscat d'Alexandrie, Grenache Blanc, Grenache Gris, Chardonnay et Belle Dentelle.
Ben les filles, moi je tenais à vous écouter un petit peu, d'avoir votre son de cloche. Parce que vous êtes quand même les piliers filles de la grosse communauté ici vigneronne. Donc voilà, il y a Lise et Nina. Et du coup, je voulais savoir, toi, le vin, Lise, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie de femme ?
Et si tu veux, je pense que le vin m'apporte une action du corps. Je fais des mouvements avec mon corps, je le trimballe. Il y a une part de physique qui intervient. Mmh. Et c'est ça qui me rassure. Je pense que j'ai une forme de paysannerie qui n'est pas à plein temps, mais je suis paysanne à certains moments. Ça me fait écho, moi, mes racines, ou qui sont quand même principalement gérées par les hommes. Et j'ai l'impression de faire la paysannerie gérée par les femmes. Ni plus ni moins, sans pédanterie, tu vois. Mais juste, ça m'a ouvert une porte que je cherchais depuis longtemps.
Bah donc tu veux dire qu'en tant que femme, en fait, tu prends ta place dans la paysannerie, et en plus tu mets ton corps à l'épreuve. Ça a quel impact ? Ça te libère la tête, je sais pas.
Moi, je suis quelqu'un qui a fait vraiment, je pense, 10 ans ou 15 ans d'ordinateur, qui s'exprimait là-dedans, mais qui faisait des trucs créatifs et très cool, comme la photographie. J'utilisais pas mon corps, et moi, ça me pose problème. J'ai besoin de ça parce que j'ai un corps fragile, j'ai mal au dos, enfin, il faut que je m'active, que j'entretienne ce petit corps.
C'est comme tu retrouves un équilibre en fait entre l'intellectuel et le physique.
C'est surtout, enfin, c'est un truc qu'on fait à deux, toutes les deux. Enfin, je pense je fais des échos tout le temps et seule, j'aimerais pas. Enfin, on est assez rassurés et toutes difficultés qui peuvent s'avérer liées soit au sexisme, soit au fait qu'on est des femmes, de le vivre à toutes les deux en tant que copines, on rigole beaucoup des âneries, quoi.
Et on s'énerve aussi.
Oui, mais à soutenu, on se soutient.
On se soutient, oui.
Nina, le binôme.
Ouais.
En quoi ça vous soutient en fait le collectif là, on a parlé du binôme femme, mais plus largement d'être dans le collectif. Est-ce que vous auriez fait ça ?
Je pense que nous, on a une pratique où ça fait des années qu'on est dans des collectifs à 5, 15, 10, 20, 30. Et là, on s'en était un peu extrait de par les histoires de vie, des collectifs qui se terminent. Et là, on retrouve un peu un esprit de collectif qui est assez cool. Mais pour moi, on est quand même un binôme dans un collectif. Parce qu'on est aussi un binôme de femmes et que mine de rien, on a une réalité qui est un tout petit peu différente. Enfin, on aime s'organiser collectivement, parfois avec des hommes. Mais en tout cas, des fois, pour moi, c'est hyper important qu'on s'organise en tant que nana. Ne serait-ce que pour des choses simples, mais tu vois, enfin, quand tu bosses avec des mecs, et surtout dans un métier qui est réputé être très... masculin, tu vois, comme la viticulture et être vigneron. Mais tu vois, en fait, c'est tous les jours où tu dis non, est-ce que tu peux ne pas me prendre mon outil des mains ? Est-ce que tu peux, comment on fait pour gérer le partage de tel espace ? Est-ce que je peux, en fait, être légitime à exister dans cet espace pour faire une activité, je sais pas, un pressoir ou un machin, sans que. Et mine de rien, malgré le fait de bosser avec des personnes qui sont très chouettes, il y a toujours des petits curseurs à replacer de « Non, s'il te plaît, ne m'enlève pas mon outil des mains. En fait, je suis en train de travailler et je n'ai pas... Enfin, j'ai besoin d'aide. Si tu me proposes ton aide, bienvenue. Mais par contre, ne fais pas quelque chose sans m'avoir demandé, en fait. Enfin, tu vois, il y a toujours ce truc un petit peu chiant.
Tu parles de... au-delà d'être une femme, je pense qu'il y a de se recaler en tant qu'individu par rapport à l'autre. Au niveau, puisque c'est un espace partagé, c'est des espaces communs, il y a du matériel partagé. Il y a quoi d'autre ? Des fois, vous êtes plusieurs sur les mêmes vignes aussi.
Non, mais ça, c'est vraiment une histoire de collectif.
Après, juste pour replacer le truc sur le collectif, moi, ce que j'aime bien ici, c'est que c'est difficile aussi, c'est que c'est un collectif qui n'est pas uniforme, qui n'est pas homogène, avec des gens qui ne sont pas forcément alignés sur... l'exact militantisme, tu vois.
Enfin, de toutes les générations.
Ouais.
En quoi le collectif, il n'est pas aligné, comme tu dis ?
Prof.
Et là quand tu, par exemple, on est étudiant, on est 50 à table, c'est quoi le mélange qu'on peut voir là sur,
il y a un mélange générationnel.
Générationnel.
Parce que je crois que Jacques, il a bien 70 passé, non ? Je ne sais pas, ça doit être le doyen.
Non, mais il y a des enfants.
Voilà,
il y a le mélange générationnel.
Classe sociale.
Voilà. Bon, alors, on est que des blancs, hein, on va pas se mentir.
Oui, pas loin.
Ah, il y a quand même au niveau étranger, il y a 3 woofers, il y a un Mexicain, oui. Une Autrichienne,
oui, mais
et une Française.
Sont dans un dispositif particulier. Enfin, ouais, je veux dire, on n'est pas ça. Dans, ouais. le, dans ouais, ouais. Un mélange. Voilà. Bon, au niveau genré. Ouais, bah, moi, c'est peut-être parce que c'est mon cheval de bataille depuis quelques années, mais je trouve qu'il y a énormément de choses à faire. Et quand bien même on est dans un milieu amical, je pense qu'il y a toujours des choses à discuter, et je trouve que c'est chouette, même entre amis, de toujours questionner ces moments, l'occupation des espaces, le partage des tâches, le partage des machines, qui c'est qui fait la vaisselle, qui c'est qui fait la bouffe, qui c'est qui fait...
Je crois qu'en plus, là, tu parles de le fait que vous soyez des femmes, mais il y a aussi que vous êtes un peu chef d'entreprise quand même, les filles, là.
Ouais, non, donc, tellement pas.
Voilà. Non, mais quand t'emmènes des gens sur tes vignes pour la vendange,
mais en fait,
c'est toi qui donnes quand même l'ordre.
Hein, bien sûr, parce qu'il faut un capitaine dans un bateau, je sais pas, faut faire une vieille métaphore pourrie.
Mais
non,
on en sait rien. C'est toi qui as géré.
Oui, voilà, en fait.
C'est toi qui fais la, qui as géré la bouffe. Enfin, tu vois, c'est toi qui sais combien de contenants et combien de raisins.
C'est
une grosse différence. En fait, c'est toi qui as la charge mentale.
Oui.
Et quand tu moi, j'aime bien aller vendre. J'ai pour les autres parce que du coup je coupe du raisin et je m'embrasse.
Oui, mais on te dit, tu ramasses ça, mais pas ça, et t'avances, et puis et quand c'est fini, c'est fini, et puis tu te bourres la gueule et t'as pas de charge mentale. C'est vrai que quand c'est ta vendange, quand c'est ta vigne, t'as un truc où, voilà, effectivement, t'as passé la nuit, qu'est-ce qu'on fait, le pique-nique, le café, le nanana, comment on va faire, et putain, et si je mets 50 trucs dans ma voiture, en fait ça rentrera pas dans l'autre d'après. Et du coup, t'as cette espèce de charge. Et du coup, quand t'as quelqu'un qui arrive de nulle part, qui te dit « Ouh, tu devrais faire plutôt comme ça que comme ça », et t'as envie de dire « Mais putain, j'ai passé 3 jours à y penser ». Enfin, tu vois, c'est pas un... Moi, encore, pour moi, c'est encore lié souvent au genre.
Tu préfères aller demander de l'aide si t'en as besoin plutôt qu'on te propose ?
Oui, bah oui.
On a de moins en moins besoin d'aide au niveau de la charge mentale et des indications de ce qu'on veut faire.
Mais d'ailleurs, on le voit bien que vous pouvez, supporter une grosse charge mentale puisque en fait vous êtes aussi rédactrice, c'est ça, de l'Empaillé.
Ouais.
Ouf les filles, un
là,
autre c'est... binôme, le même.
Là, le journalisme repointe son nez.
Et ouais.
Et oui, et ça fait combien de temps, juste, on va terminer sur ça, mais l'Empaillé, c'est un gros projet.
C'est né en environ un journal départemental en 2016. Il paraissait de manière très irrégulière.
Donc là, j'ai compté sur mes doigts, ça fait 8 ans.
Ouais, grave. Et on est venu sérieux et régulier quand c'est devenu régional. C'est-à-dire, quand Nina est arrivée...
Moi, ça fait 5 ans que je suis... dans l'Empaillé et que effectivement ça s'est un peu plus stabilisé. Voilà, il y a eu une volonté globale de d'être un peu plus régulier sur la temporalité de la parution. Et donc du coup on se consacre moitié du temps au journalisme et moitié du temps à la vigne.
Pas mal, c'est complet.
Ouais, t'as pas de temps libre, c'est génial.
T'as pas de temps libre. Tu t'éclates un peu les yeux, tu te niques un peu les lombaires.
Ah non,
on boit du vin, on s'éclate les yeux. C'est super.
Nous, on voudrait juste aller faire une randonnée.
Merci les filles.
Merci
Steph. Merci Radio Typique. Merci Saint-Girons.
On égrappe le raisin, on le foule avec une ambiance sympathique, des fouleuses extraordinaires. Du coup, voilà, en parallèle, on prend les mesures, c'est-à-dire on prend les densités, on vérifie le taux de sucre et un degré potentiel, évidemment, avant de décuver, et bien évidemment... ou bien de laisser en macération carbonique les grappes entières, ce qui donne des jus très aromatiques. On peut par la suite prendre la température, qui est tout l'art de vie de la levure.
Ça change quoi?
C'est la température, la cohésion, la rencontre entre la température et la levure qui fabrique le résultat final. Avec évidemment la qualité du raisin de base. Et encore plus évidemment, la vie qu'on a dans le sol.
La vie qu'on a dans le sang.
Dans le sol. Finalement, on s'aperçoit que un sol vivant rend la vie vivante. À tous les niveaux. Ça finit par entrer dans ton sang aussi.
Voilà, donc c'est aussi la vie qu'on a dans le sang.
Tout à fait. Tout à fait. Jusqu'en finale, on irrigue tout ça et c'est une boucle. On fabrique du raisin, on sort toute la richesse, les minéraux de la terre pour en faire un jus qu'on élèvera précieusement comme un diamant pour à la fin le boire, vivre une ivresse qui nous élève pour ensuite le redonner à la nature en pissant sur les cèpes.
C'est de là que vient le mot spirituel.
C'est un mélange de vie de la terre et d'une bonne urine bien pleine.
Une quoi ?
Bonne urine.
Une urine ?
Oui, une bonne urine bien pleine. C'est-à-dire que la terre est vivante, elle nous donne un breuvage, on le repisse, c'est un cercle et ça continue.
Ça dépend, on le repisse parce que... dans la terre, il faut le repisser dans la terre.
Tout à fait. Voilà. C'est pour ça que c'est un peu sportif les vendanges, parce que on n'oblige personne, mais en même temps on y tient que le pipi soit au pied des cèpes, donc on se fait des allers-retours en camion pour réunir tous ceux qui ont envie de pisser.
Parce que du coup c'est vraiment l'urée, l'urine.
L'urée, c'est de l'azote.
Ok, ça apporte de l'azote.
En partie. Mais ça amène des minéraux, ça amène tout un produit qui est épuré par le corps, dont la vigne peut quasi profiter immédiatement, où toutes les plantes peuvent... c'est assimilable directement.
C'est pour ça que tu parles de cercle virtueux ?
Ah oui, quand on respecte la qualité de la terre, la vie qu'il y a dedans... La faune, même si la faune détruit beaucoup, et c'est pas facile de faire une récolte, parce que bah, les animaux sont très présents.
Qu'est-ce que tu as comme prédateur, là,
sur ce terrain ? Alors ici, on a les chevreuils, les lièvres, les sangliers qui sont le plus gros prédateur de la vigne, sur lesquels on lutte tous les jours. Mais on les comprend également. Et évidemment, les blaireaux. Mais ça, les blaireaux, il n'y a pas que dans la vigne qu'il y en a, quoi. Puisque dans ce monde viticole, qui tout d'un coup, qui a vu son histoire changer en monde touristique, ça a fait venir beaucoup de blaireaux qui aiment le raisin, évidemment, aussi.
Je ne comprends pas. Tu dis que le tourisme a amené des blaireaux.
Oui. Oui. Ben...
Okay.
C'est-à-dire que avant on travaillait avec la terre et aujourd'hui on travaille avec l'argent.
Ah, c'est intéressant ça. Ouais. Donc on travaille plus avec ses mains.
Non, on travaille avec comment imaginer faire des ronds. Il y a un côté extrêmement réducteur, très destructeur. Voilà, nous ici on essaye de respecter la terre, de vivre avec, de lui demander ce qu'elle peut, en l'aidant aussi, en l'accompagnant, puisqu'on lui en demande, donc on lui en donne aussi.
Qu'est-ce que tu lui apportes à la terre en intrants ? C'est comme ça que ça s'appelle, non ?
Ben, un peu d'engrais organique.
Parce que ici, vous faites que du vin naturel.
On n'est que sur du vin nature, radical pur jus, aucun produit n'a le droit de rentrer dans cette cave.
Tous les vignerons qui sont dans
tous
cette
les cave, vignerons dans cette cave travaillent comme ça. C'est la charte de la cave.
Et donc, comment engrais naturel, qu'est-ce que
en grain naturel, ben voilà, ça peut être du fumier de poule, ça peut être des bouchons bio en sachant que voilà, c'est quand même quelque chose de pas extraordinaire, mais l'alternative ici est compliquée vu que il y a rien qui pousse, donc on a très très peu de déchets, très peu de compost, il n'y a pas d'animaux, tous les animaux ont disparu de cette terre, donc le choix est très compliqué.
Au niveau végétal, tu m'as dit que tu utilisais des fois de la consoude.
Ça, on peut amener, on amène de l'ortie, des purins d'ortie pour le sol. Et ensuite, tout ce qui est consoude, osier, prêle, valériane, ce sont plus des traitements de contact pour dynamiser, pour amener de l'apport foliaire à la plante. Elle aime ça. Et on le voit tout de suite parce qu'elle rayonne, elle devient verte d'un coup d'un seul, d'un vert dense. Donc une photosynthèse bien plus intéressante et pour son existence et puis pour nous vignerons qui en ramassons ses fruits. Voilà, sinon on ne fait pas trop grand chose parce que le vin nature en fait c'est très peu interventionniste, c'est beaucoup de travail puisqu'on essaye d'obtenir un raisin de grande qualité. C'est comme ça qu'on arrive à ne pas utiliser de produits pour pouvoir faire du vin. Plus le raisin est de grande qualité, plus la vinification avec ses ferments naturels, plus la vinification se passe bien et moins d'interventions on a à faire, à part l'accompagner. Ce qui met une notion en fait plutôt chimique, puisque la chimie, c'est un domaine très intéressant à connaître quand on fait du vin, mais on oublie l'alchimie, donc on essaye de mettre un peu d'alchimie dans ce qu'on fait, c'est-à-dire un peu d'esprit. En mélangeant la chimie et l'esprit, on fait de l'alchimie et ça se passe pas si mal, quoi.
Merci Patrick.
Savez-vous ce qu'est réellement l'amour ? Cette force inouïe qu'on déploie chaque jour, c'est une intention personnelle de tous les instants qu'on ne cherche pas, on l'accueille au présent. Mesdames et messieurs de la couillade, venez, on échange plus de câlins. La tendresse partagée pour une vie moins fade. Vivre par le sensoriel pour notre bien. Ici, je rencontre tant d'individualités. Je vous écoute attentivement en présence. Connecter avec son prochain a du sens pour l'élévation de l'esprit par la bonté. J'ai entendu tellement de gens parler de choses pénibles obstinément. Croyez-vous vraiment que l'athlète considère ces haies comme un problème amer? Il me semble que le confort endort notre instinct premier essentiel. Le manque est une chance de l'or pour se réadapter et déployer ses ailes. Lorsque la nourriture devient besoin, tente l'inconnu et pourquoi pas, la méditation, la prière, la foi, une pratique jouissive du divin. Ah oui, et s'il vous plaît, respectez-vous. Vous êtes belles et beaux les petits loups. Je ne vois que des êtres pleins de charme. La beauté est un ressenti qu'on incarne.
Merci Miguel.
Ils l'appellent tous la mémé, parce qu'elle est très ridée. Mais surtout parce qu'elle n'en fait qu'à sa tête. Ce matin, c'est elle que nous avons vendangée. Un raisin aux perles translucides, roses et jaunes nacrées, comme une grappe de pierres précieuses. J'aurais aimé la poser sur du velours, mais je l'ai mise dans mon seau en plastique. Puis dans ma bouche, un goût sucré éclatant, grenache gris. Celle-ci, au contraire des autres parcelles, auront bien ordonné, est plantée d'une manière éparse sur un vallon de terre rouge. On a eu beau prendre chacun sa ligne, au bout de deux pieds, nous nous retrouvions sur la ligne de notre voisin, et le porteur nous criait de ne pas en perdre et de revenir sur nos pas. Indisciplinable, fauve et revêche. Elle finit par prendre le dessus jusqu'à ce que nous lâchions notre raideur, nos automatismes, pour nous adapter complètement à elle. Pour chacun de ses pieds, unique et différent. Observer sa forme, le toucher avec délicatesse, soulever quelques feuilles cachant le trésor, puis couper la grappe avec attention. Chaque vendangeur est comme un cep. Il arrive ici avec sa fragilité, son histoire plus ou moins tordue, mais regorge en lui du meilleur raisin. J'ai observé ça, qu'aucun pied de vigne ne se ressemble, ni par sa forme, ni par sa production. Pourtant, avec les grappes de chacun, on peut en sortir un très bon vin. Un très très bon vin. C'est exactement pareil dans le collectif, je crois. La part manquante est retrouvée au milieu du groupe. On s'affirme dans ce que l'on a de bon en soi, et notre particularité devient génie.
C'était Garder les yeux ouverts, une émission socioculturelle proposée et réalisée par Stéphanie Andrès, tous les mercredis et samedis entre 17 et 18 heures et en rediffusion pendant un mois. À réécouter en podcast sur le site de radiokipik.org, KIPIK.